bonjour et bienvenue. Et puis, sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Antoine, ouais, qui, 45 ans après les élucubrations, a toujours les cheveux aussi longs. Voici vos constats. La vaillante équipe des Grosses Têtes est composée aujourd'hui de Jacques Maillot.
Présent.
De Bernard Mabille.
Présent.
De Jean-Jacques Perroni.
Présent.
De Vincent Perrault.
Présent.
Et de Macha Méry.
Présente.
Et puis on peut dire que notre invité d'honneur est une ancienne connaissance. Il fait de nouveau escale à Paris avec un bel album, avec un 30e documentaire et avec 72 conférences. Vous voyez qu'il n'est pas venu les mains vides. C'est Antoine. Asseyez-vous, cher Antoine.
Bonjour, mesdames et messieurs.
Et soyez remerciés. D'abord d'être là, ensuite d'être toujours fidèle à vous-même et à l'image qu'on a gardée de vous, qui s'est à peine modifiée. Hein.
Ben, je suis resté fidèle à celui que j'étais. Ouais. La première fois que je suis venu à RTL, c'était en 1966, l'été. Vous étiez encore un jeune garçon en culotte courte à l'époque. Et c'est toujours un plaisir de venir dans ce studio parce que j'ai vu en fait les débuts de Philippe Bouvard à la radio également. Il y a vers 1968-69 par là.
C'est vrai, exactement.
Dans ce grand studio de RTL.
Oui, j'ai fait mes débuts en 69.
Vous
étiez sur les barricades, comme vous voulez.
Je dois vous dire que depuis votre dernière visite, notre rituel a un peu évolué, qu'aujourd'hui, il y a obligatoirement une visite médicale. C'est le docteur Vincent Perrault qui va nous examiner. Docteur Vincent Perrault, qui sera bientôt professeur parce qu'il est extrêmement doué.
Alors, Antoine,
oui, alors.
Ça va être à nous.
Oh, il a la blouse.
D'abord, il faut que je mette la blouse.
Il a la blouse avec la croix rouge et tout.
Et surtout, regarde.
Tu me fais penser à.
Le petit chapeau.
Adriana Carambeu avec la croix rouge.
Ah bon, mais pas pour la taille des jambes alors.
Non, c'est moins grand, c'est vrai.
En fait, il est gynécologue, mais bon, il fait une petite infidélité à sa spécialité. Voulez-vous d'abord, s'il vous plaît, le cœur d'Antoine pour savoir s'il bat toujours normalement pour nous.
Il va falloir mettre son petit doigt là-dedans.
Ah bah ça
Antoine,
c'est
attention, alors délicate.
Il tremble, il est tout ému.
Un crocodile qui me mange le doigt, quelle horreur.
Voilà, on appuie sur le petit bouton.
Voilà. Vous entendez votre cœur?
Ah, Antoine, c'est bien, oui.
Hein, c'est bien, hein.
Un cœur de voyageur, un cœur de quelqu'un qui n'a pas le stress au ventre, hein, ça se voit.
La dernière fois que j'ai entendu comme ça, c'était dans l'émission de Jean-Pierre Foucault.
Oui.
Ça s'appelait Zone Rouge.
Oui, mais ça c'est stressant. Et voilà, alors ça nous donne 86...
Combien aviez-vous fait chez Jean-Pierre?
J'avais toujours été bon. J'avais pas répondu à une question très importante sur l'île, comment ça s'appelle, le manège enchanté ou l'île aux enfants. Là, ma culture s'était arrêtée là, mais sinon j'avais gagné.
Bon, parce que
contrairement à la question pour un champion, que j'ai gagné.
J'étais descendu à 62, il paraît que c'est pas beaucoup, 62.
Ah, mais vous étiez quasiment au bord du coma là, vous.
C'est près du mouton à peu près, quoi. Ouais. Entre le mouton et l'oursin.
Oui. Bon, dites, entre deux conversations de grands malades, est-ce que je peux vous donner mon score ou pas?
Oui,
86 de pulsations cardiaques. 86.
Ah, c'est beaucoup, je trouve.
Ah, bah oui, écoutez,
un petit stress.
On était mieux quand on arrivait en public d'air.
Philippe, est-ce que je peux me permettre de lui mettre dans l'oreille, s'il vous plaît?
Mettez-lui dans l'oreille.
Très bien.
J'ai eu peur.
Si un jour on m'avait dit. Alors attention, ne bouge pas, ça, c'est qu'un mauvais moment à passer.
Et le massage de la température.
Le massage de la prostate, c'est quand?
Alors il faut attendre quand même que ça monte un peu.
Oui,
hein.
Oui, bien sûr. Oui, ça fait monter la température, on sait faire.
Alors
un petit instant, ça doit être bon là, je pense. Et ça nous donne un 36,1. Assez froid quand même pour un homme qui est au soleil toute l'année.
Tu peux me faire l'autre oreille, elle est plus chaude.
Tu vas voir si tu continues à faire le malin, ce que je vais te faire qui va être plus chaud.
Mais Antoine, alors, tu as fait une chanson.
Un petit coup de marteau pour le réflexe.
Ah, oui, alors ça, le réflexe, c'est très important.
Ah, putain, on se fait taper dessus maintenant.
On se décale un petit peu.
Oui, alors
attends, il faut mettre la jambe comme
la
jambe, ça. Tu vois, voilà, la laisser, vous voyez, j'ai le coup.
Ça, c'est un vrai pro. Hein.
C'est vachement radiophonique, votre truc, je trouve.
Vous le traitez par-dessous la jambe, là.
C'est vrai, mais pour une fois, c'est une qualité. Mais j'ai beaucoup joué au docteur, alors attention.
Vous avez vu? Avec une
en attendant, je le traite peut-être par-dessous la jambe, mais. Oh ben non, merde, fais un effort.
Et dis donc, t'as pas exercice illégal de la médecine,
ça marche.
Toi? Fais voir ton diplôme un peu, Vincent.
Et puis nous terminerons par la prise de tension artérielle.
Ça me semble bien. Oui. L'avantage avec toi, c'est que tu remontes pas. Pas besoin de remonter la manche.
Mais oui, c'est magnifique.
La partie la plus sérieuse de l'examen.
Oui.
Mais c'est assez très bien, ça me semble. Il faudrait revenir tous les mois ou tous les 2-3 mois.
Et c'est ça, le petit check-up.
C'est la médecine du travail.
Tu vas venir sur le bateau, nous inspecter.
Ah, alors ça, voilà une idée intéressante. Sur le bateau, c'est bien. Voilà, voilà, c'est un petit peu.
Vous avez une petite surveillance médicale, autrement, dans les ports où vous vous arrêtez ? Non.
Oh, pas systématiquement, mais lorsque. Oui, en Polynésie, il y a tout ce qu'il faut comme médecine.
C'est attention, ça va gonfler un peu.
Ah, ben ça gonfle un peu, oui.
Ah,
ça.
Bah tiens, je t'en remercie. Merci du compliment. Attends, alors laissons faire.
C'est marrant qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer ici. Ça va gonfler, il y a toujours des rires gras.
Oui.
Bah, tu n'y es pas pour rien non plus, là, toi.
Toi, s'il te plaît. Hein.
Espèce de provocateur, va. Ouais. Alors, attends, ça monte.
Tu as trop serré le bras.
Non, c'est bien. C'est Laurie qui lui a fait
Est-ce
amoureusement.
Est-ce que c'est assez serré, oui.
Oui, c'est assez serré.
C'est assez, comme disait la baleine, je suis assez serré.
On est collé, serré. Attendez, voilà, ça redescend. Dans quelques secondes, je vais vous dire tout ça.
Et puis, voyez, alors, c'est bien. Hein.
Vous allez nous communiquer les 2 chiffres, s'il vous plaît.
Absolument.
Et ceux qui ont gagné les chiffres ont gagné le loto dans l'ordre.
Voilà.
Attention, on y vient.
C'est de plus en plus.
Dis donc, t'es peine à jouir un peu quand même.
Oui, hein, oui, ça dépend des fois, oui, un petit peu.
Alors,
mais les dames aiment.
15-7.
Ah, c'est pas mal, 15-7. Hein.
Oui, c'est
très bon, c'est bien.
C'est bien.
C'est pas mal, ça n'a Je vais aller voir le docteur.
Non, c'est bien.
15, c'est un peu haut, non ? 15,
c'est
un peu
Surtout haut. C'est un peu bas. Non, mais attendez, comme on dit dans les supermarchés, notre ami est en promotion. Donc, il s'est levé de bonne heure.
Ah, bah oui, j'ai affronté la capitale, la circulation, etc. C'est. Viens, je te dis, viens faire le même examen sur mon bateau ou toi, Motu, là-bas, tu verras, c'est plus calme.
Merci, docteur Perrault, merci beaucoup. Alors, on commence, cher Antoine, par 30 secondes chrono. Passez-vous maintenant plus de temps à raconter vos voyages qu'à voyager ?
Non.
Vous souvenez-vous des conférenciers dont la devise était « 2 jours au pôle Nord et 2 ans salle Pleyel
» Je songe à faire un documentaire sur la salle Pleyel et aller le montrer aux phoques du pôle Nord ou du pôle Sud.
C'est connaissance du monde. Hein.
Oui, c'est connaissance du monde, toujours. C'est
toujours.
Ça existe toujours. Et je vais faire 72 conférences, comme le disait avec notre ami tout à l'heure. Je vais faire 72 conférences dans toute la France à partir du mois de décembre avec connaissance du monde. Ah, ouais.
Combien de fois par an allez-vous chez le coiffeur ?
Deux fois à peu près quand même. Hein. Ah, fois. Oui.
Quand et je là, reviens. C'est quand la prochaine ?
Ben, la dernière fois c'était il y a un mois à peu près. Quand je reviens du bout du monde, en général, je suis obligé, en particulier pour mon sponsor, parce qu'ils ont des lunettes, donc ils me voient de près.
Et la barbe ?
La barbe, un coup de ciseau tous les 2-3 mois.
Et là, c'est vous alors ?
Non, ben quand je reviens en France, le coiffeur fait aussi la barbe.
Est-ce que vous pourriez vivre du poisson que vous pêchez et des droits d'auteur de vos 370 chansons ?
Des droits d'auteur, certainement pas, parce que ça fait pas mal d'années. Si, les droits d'auteur, on pourrait en vivre très, très frugalement, disons. Mais les poissons, je ne suis pas un grand pêcheur, moi. J'aime bien laisser les poissons tranquilles. En général, j'ai trouvé... Puis en plus, ils ne mordent pas quand j'essaie de mettre une ligne, ils n'ont pas intéressé. Alors j'ai trouvé un système pour pêcher qui est très efficace, J'appâte avec un billet de 10 euros dans les congélateurs des supermarchés. Et ça marche très bien. Vous mettez le billet de 10 euros et hop, vous sentez un poisson. Ça marche très bien.
Oui, mais ça, c'est comme les chasseurs qui reviennent avec du gibier sur lequel il y a une étiquette. Faut l'enlever quand même.
Ben oui, il faut l'enlever parce que c'est pas digestif.
Est-ce à la suite de votre spot pour Viandox que vous avez cessé d'être végétarien ?
Aucun rapport, mais c'est vrai que quand je suis parti naviguer, j'étais végétarien. Puis je me suis aperçu très vite que quand on voyage, on rencontre des gens partout. Et si on leur dit « je ne mange pas comme vous, je ne suis pas comme vous », ben ça ferme tout de suite les contacts. Donc j'ai cessé d'être végétarien tout en pensant beaucoup de bien de ceux qu'ils sont.
Oui, mais c'est pour maintenir ce qu'on appelle le lien social.
Voilà. En quelque sorte, voilà.
Est-ce qu'auprès des opticiens, Adriana Carambeu ne vous a pas fait de l'ombre ?
C'est joli, Adriana Carambeu est tout à fait charmante.
Ah oui,
elle est tout à fait charmante et je suis content d'être avec elle dans cette opération.
Ah bah oui, on le serait à moins. Hein.
C'est vrai, ça me donne le plaisir de la rencontrer. Je l'ai même récemment, il y a quelques mois, lors de la resignature de notre contrat, car c'est assez fabuleux quand même. Il y a à peu près quelques centaines d'opticiens comme ça qui sont associés et tous les ans, en quelque sorte, ils me votent la confiance. Et ça fait 12 ans que ça dure. Et avec Adriana, la dernière fois, on a signé...
Oui, mais elle est entrée dans le circuit, elle n'y était pas avant.
Ah non, mais elle est entrée récemment, mais on a un point commun, c'est que c'est le cachet de ça sert essentiellement à payer nos voyages, à nous permettre de voyager. Mais dans mon cas aussi, comme je l'ai dit bien souvent, l'affaire, le contrat merveilleux que j'ai avec Atoll, parce que c'est une gentillesse incroyable de tous ces opticiens, eh ben, ça m'a permis de donner les meilleures études possibles à mes enfants. Et ça, c'est très important.
Ah oui, comme ça, ils ont fait des études à l'œil.
Malheureusement, elles ne sont pas à l'œil.
Qu'est-ce qui fait la photo quand vous posez aux côtés d'un animal ?
Eh bien, depuis très longtemps maintenant, je vis avec une compagne qui s'appelle Francette et qui est devenue le photographe dans le livre.
Elle a fait des clichés fabuleux, là.
Oui, oui, elle est formidable, elle fait des clichés fabuleux, pas que ça d'ailleurs, le reste aussi, mais elle spécialement, elle fait des photos formidables. Moi, je viens à la caméra.
Éviter les grivoiseries, ouais, c'est pas le genre de la maison.
D'accord, ben oui, c'est ce que je savais. Moi, je tiens la caméra et elle tient l'appareil photo.
Voilà. Et qui sort le petit oiseau ?
Oh,
petit
ça oiseau. Va !
Bah, j'ai aidé un peu, moi.
Si, plutôt. Comme vous l'affirmez, vous ne photographiez que des animaux heureux, sur quoi vous basez-vous pour déduire qu'ils le sont ?
Ben, c'est difficile de dire, mais en tout cas, je n'irai pas photographier un animal en train d'en dépecer un autre, un animal enfermé, un animal qui semble malheureux, quoi. Et j'ai ce livre qui s'appelle « Les animaux du paradis » ou « Au paradis des animaux ». C'est des photos d'une centaine d'animaux que j'ai faites, que Francette et que moi-même avons fait.
On en parlera en détail parce qu'il y en a qui sont fabuleux sur des animaux qu'on ne connaît pas, dont on ne soupçonnait même pas l'existence, oui. Et qui sont parfois les plus beaux. Et alors on se dit que la nature fait des choses incroyables.
Ah, bah, la nature est
sur le plan des couleurs et des formes.
Et de l'imagination aussi, sur la façon de vivre, de vivre et de se reproduire, un sujet qui va vous intéresser. Mais des animaux, il y a vraiment une variété incroyable de comportements chez les animaux.
Quelles précautions avez-vous prises au Botswana.
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 Le
Botswana.
Philippe est un linguiste.
Le Botswana.
J'ai du mal avec petits nègres.
J'ai du mal avec tous les mots étrangers.
Vous n'avez qu'à dire le pousse-toi là et puis voilà, ça ira.
Voilà, pour opérer à 10 mètres d'une troupe de 23 lions.
De 23 lions ? Ben aucune. On était en voiture avec un pisteur, un guide qui était... qui depuis 3 jours essayait de nous montrer des lions et on n'en voyait pas. Et un jour, il dit, on va en voir aujourd'hui. Et on part, et tout d'un coup, on a vu arriver un lion. C'est juste avant qu'on abandonne, on allait repartir. Et on avait arrivé un lion, deux lions, trois lions. À la fin, il y avait 23 lions qui étaient à 10 mètres de nous. On était dans une voiture décapotée, ils étaient en train de boire. Il n'y avait pas plus de précautions que ça. Et ils étaient paisibles, on était là, les éléphants passaient à côté et tout. Et on est parti, et notre guide nous a dit vraiment, ça c'est là. C'est la magie du Botswana.
Il y a une photo fabuleuse d'une maman éléphant qui se balade avec son petit.
Ah oui, ben c'est une...
Ah, et alors le petit est vraiment la reproduction miniature de la maman.
Ben,
hein.
Contrairement à l'être humain, le bébé de beaucoup d'animaux, à l'instant où il naît, il quelques minutes après, il ressemble déjà à ses parents. Quoi,
Et il gambade
tout de suite. Ouais, ben, chez nous, on a les chevaux, les moutons, ils sont debout dans la minute qui suit.
Sinon, ils sont tués immédiatement.
Ouais. Mais oui. Alors que Sarkozy
parce que l'homme est le seul qui met tant de temps à... Alors, bon, on parlera peut-être tout à l'heure aussi des marsupiaux, par exemple.
On va en parler. Là, je voudrais savoir pourquoi vous prenez davantage vos distances avec les requins qu'avec les fauves.
Parce que les fauves, on peut d'une certaine façon se protéger. On n'a pas besoin d'y aller. Tandis que les requins, moi, je vis sur un bateau. La mer est mon quotidien, quoi, je nage quotidiennement. C'est vrai
pas
que
notre
requins,
élément, ouais.
Les requins, j'y fais attention. Mais dans les endroits où je vis, il n'y a pas les mêmes requins qui ont créé actuellement des attaques vraiment graves dans certaines îles, en Australie, etc., et dans les îles de l'océan Indien.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les massacrer.
Oui, non, ce n'est pas les massacrer. Mais moi, je reste à distance en général. Quoi. Disons que j'ai toujours un œil aux aguets pour les requins.
Est-ce que il y a une photo de crocodile ? Il y a une main qui s'engage dans la gueule du saurien. C'est la vôtre ?
Non, c'est pas la mienne. Non, on voit, c'était dans un parc, une attraction en quelque sorte en Thaïlande.
Ah, c'est le manchot qu'on voit à la fin du livre alors.
Non, c'était en Malaisie, dans un parc d'attractions, où effectivement, il y a des démonstrations de crocodiles dressés. C'est pas la photo que je préfère, et le crocodile n'est pas du tout l'animal que je préfère non plus. Mais il avait quelque part... Ce livre, ce sont les 100 animaux que j'emmènerai volontiers dans mon arche de Noé personnel, photographié au fil de ces 10 ans. Et la plupart sont des animaux que j'aime bien. J'en ai inclus quelques-uns, comme le crocodile et le requin, mais ils ont intérêt à bien se comporter.
Est-ce que c'est parce que le lémurien utilise sa queue pour communiquer que vous dites qu'il est le plus proche parent de l'homme.
pas seulement sa queue, il a des glandes au poignet, il marque son territoire. Il marque son territoire avec. Et lorsque deux lémuriens sont en concurrence pour séduire une femelle, une jolie lémurienne, eh ben, ils font jouer leurs glandes. Et c'est celui qui sent le plus fort qui emporte l'affaire.
Tiens, ça me rappelle quelque chose.
Donc, vous me regardez comme ça, vous attendez une cochonnerie peut-être. Les glandes au poignet, tout ça. Enfin, tout de même.
Pourquoi affirmez-vous que les rayures du zèbre ne servent à rien alors que certains prétendent qu'il s'agit de régulateurs thermiques ?
Ah, je ne connais pas cette option-là, mais je sais aussi que c'est l'empreinte digitale. C'est l'empreinte digitale.
C'est le code-barre de l'animal.
C'est le code-barre en quelque sorte. C'est l'empreinte digitale et on dit que lorsque le bébé zèbre naît, la mère le cache aussitôt, qu'il ne voit personne d'autre, qu'il ne voit que sa peau à elle, pour pouvoir la reconnaître après. Parce que
mais
sinon,
il paraît que si on met un zèbre derrière des barreaux, il est tout blanc.
Voilà.
Mais il naît avec les rayures, le bébé, ou elle vient après ?
Et les gens se sont posé la question, je cite dans le livre, on ne sait pas vraiment, est-ce que le zèbre est un animal blanc à rayures noires, ou noir à rayures blanches, et on ne le sait toujours pas vraiment. C'est important comme question quand même.
Est-ce que les phoques et les pingouins que vous avez photographiés n'adoptent pas souvent des postures humaines ? On pense à la promenade des notables dimanche en province. Hein. Ils sont graves. D'abord, ils sont sur leurs deux pieds. Hein.
Oui.
Et bien habillés, hein, noir et blanc.
Oui, il y a de ça.
Et puis, on dit bien des pingouins pour les gens qui sont en smoking. Hein,
bon, ils ne sont pas tous comme des phoques, mais enfin quand même.
mais vraiment, ils sont graves, solennels. Hein.
Il y a aussi un autre animal qui est photographié dans le livre, c'est l'oiseau secrétaire. Alors si vous voyez l'oiseau secrétaire, il y a deux espèces. Il y a l'oiseau secrétaire normal et puis il y a la loutarde de Cory. C'est deux oiseaux les plus grands du monde à peu près, qui sont debout sur leurs pattes et qui marchent vraiment, on dirait vraiment des notables. Ils ont le ventre en avant, ils marchent d'un pas mesuré comme ça.
Ils
fument pas le cigare, mais ils pourraient.
Oh, c'est valable pour certains pigeons aussi, qui ont une façon de marcher. Hein.
C'est vrai, un petit peu. Content d'eux.
Et qui ont l'air d'ailleurs de se saluer chaque fois qu'ils se croisent. Ah, voici donc la fin des 30 secondes. De Madame Plaine, de grâce, qui a dit « Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. »
Tabarly.
Bonne réponse de Maillot. C'est Tabarly. En avez-vous terminé avec la chanson ?
Non, la chanson a toujours une place. J'ai toujours... j'ai enregistré jadis au moins... Plus que ce que vous disiez, au moins 500 chansons en comptant les versions étrangères et tout, dans beaucoup de pays. De temps en temps, je vais chanter. À la fin de la semaine, je vais faire une grosse émission de télévision à la Rai Uno en Italie. Mais il est même... récemment, je suis allé voir... Dylan et Marc Knopfler à Bercy.
Alors, qui sont restés jusqu'au bout pour
non,
Dylan.
Non, mais moi je connais les problèmes de Dylan et il a sa façon de jouer sur scène et je suis resté jusqu'à la fin parce que j'aime beaucoup Dylan depuis toujours quoi. Et puis il n'est pas exclu que des personnes m'ont proposé, des gens avec beaucoup de talent, des noms que vous connaissez
de
sans doute.
De remplacer Dylan.
Non, d'enregistrer un nouvel album. Alors, il est possible que dans les mois qui viennent, je retrouve le chemin des studios.
Et il y a une guitare sur le bateau.
Oui, j'ai une guitare sur le bateau, oui. C'est la seule chose qu'on m'a volée une fois sur le bateau.
Pourquoi n'avez-vous jamais rejoint la tournée H Tendre et Tête de Bois ? On a dû vous le proposer. Hein.
On me le propose tous les ans et j'ai dit, j'adore les gens qui la font, j'adore les gens qui participent, j'adore le public. C'est extraordinaire, ils sont 15 000, c'est pas vrai du tout ce que disait Jean-Jacques Debout, 20 000 vieux sous les mers, c'était pas ça du tout. J'adore cette tournée-là, mais je me vois pas du tout la faire pendant 6 mois. Quoi. Donc j'ai proposé moi de la faire quelques jours pour m'amuser, parce que j'ai plein d'autres choses qui me passionnent dans la vie, les voyages, etc. Lorsque je chante, c'est plutôt dans les petits trucs comme le petit journal Montparnasse où je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Cette tournée, je ne la méprise pas du tout, mais je me sens pas d'aller faire ça pendant 6 mois.
Alors, nous allons faire une partie de tennis. Pas
de match.
Comme chaque jour.
En pension, évidemment.
Oui, bien sûr.
On va échanger quelques balles, vous allez voir. Hein. Et en présence du roi des arbitres. Eh oui, c'est lui.
Il n'avait pas dit de saloperie aujourd'hui pour ne pas vous contrarier, mais il est puni quand même.
Non, voilà. Mais parce que allez, Bernard Mabille, Bernard est celui qui connaît le mieux le jeu de la petite balle ronde. Vous allez voir comme il grimpe. Oh là là.
N'importe quoi.
C'est
oh là là, c'est un... Vous lui demandez un gros effort quand
ah
même.
Oui.
Hein.
Quand il s'élève...
il monte sur sa chaise. Hein.
Voilà. C'est la seule gym qu'il fasse de toute la semaine.
Ah bah dis donc, aïe aïe aïe, oui. Oh.
C'est non, son mais... sport, c'est son sport.
La chaise, ça va mal finir, il y aura un accident du travail.
La chaise a été renforcée, c'est bon ?
Oui, tout va bien. Oh, on m'a donné les mots de tennis.
Alors...
Est-ce qu'il ne faut pas, Antoine, être un peu voyeur et pervers pour observer la sexualité du mérou ?
Oh là.
Comment il s'y prend, le mérou ?
Ben, le mérou, il a une particularité, c'est que, qu'ont beaucoup de poissons d'ailleurs, c'est qu'il change de sexe au bout de quelques années.
Oh,
c'est-à-dire que oui. le mérou est femelle à la naissance et il devient mâle ensuite. D'ailleurs,
on l'appelle autrement, je crois. Quoi, après,
j'ai une révélation à
vous faire. On l'appelle la morue.
On l'appelle le mérou bignol.
Oui, mérou bignol, ça va. Mais j'ai une révélation
à
vous faire.
C'est le seul poisson qu'on peut tondre parce que.
Oui, le mérou, ouais, d'accord. La peau est
le mérou se tond.
Oui, la peau est fragile.
Oh là là.
Non, mais savez-vous que vous avez entendu parler de Jojo le mérou ?
Oui,
Jojo le mérou. Alors, je me suis renseigné, il paraît que dans les premières années, Jojo le mérou s'appelait Josiane.
Ah, c'était pas le mérou bignol, alors.
C'était le mérou de Cousteau.
Mais il paraît qu'il mangeait que du cassoulet, et après c'était Jojo le péroupette.
C'est léger comme émission.
Faut pas me pousser.
Bon, je crois que je vais redescendre, parce qu'il y a des gens...
Montez d'en haut pour ça. L'arbitre.
C'est Bouvard qui nous a envoyé là-dessus.
Mais alors, qu'est-ce qui lui arrive quand il devient mâle?
Alors, un coup gagnant pour Antoine.
Et de temps en temps, quand il manque un mâle dans un groupe, et ben il y a une femelle qui se dévoue pour devenir mâle.
Et voilà.
C'est génial, ça.
Et le c'est pas mal. Et le bérou, vous savez pas s'il change de sexe ou pas.
Le bérou.
Et alors il a tout ce qu'il faut, les spermatozoïdes et tout ça.
Pardon.
Il a tout ce qu'il faut.
Il a tout ce qu'il faut apparemment. Ou ça,
oh bah allez voir inviter un mérou à dîner, vous verrez bien. Ça est-ce que sur le plan sexuel, l'animal est plus volage que l'homme?
Il y a tout. Il y a de tout chez les animaux. J'ai été émerveillé en regardant, en faisant les recherches pour ce livre. C'est que il y a tout. Il y a aussi bien les machos, il y a aussi bien ceux qui ont un harem.
L'antilope a un harem.
Les antilopes ont un harem, mais il y a aussi des animaux où c'est la femelle qui mène tout. C'est la femelle qui dirige. Il y a des animaux qui ont, ça dure 5 minutes, d'autres qui ne pensent qu'à ça. Il y en a où les parents élèvent l'enfant, le petit, pendant des mois ou des années. D'autres où ils ne s'intéressent pas du tout.
Il y a les fidèles, comme les tourterelles.
Et ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule forme pour l'homme, ça ne peut être qu'une seule forme qui est la famille normale, un père, une mère, des enfants et tout, ce serait bien qu'ils aillent voir un peu comment ça se passe réellement dans la nature, parce que la variété est immense, quoi.
Un point pour Antoine pour un magnifique passing shot. Ça vous va, ça, Thierry?
C'est bien.
C'est quoi un passing shot?
Ah, j'en sais rien, mais c'est marqué sur le carton. Après, Antoine, tu feras une glissade, un jeu décisif, un jeu blanc, un lift. Et on terminera par un tennis elbow. Pas un pénis elbow.
Pénis elbow, oui, c'est bien.
Comment le fou de Bassan recrute-t-il ses compagnes?
Eh bien, dans ce livre, il y a un petit concours. Il y a une dizaine d'animaux, au moins, qui ont inventé des choses que les êtres humains ont inventées bien plus tard. Je ne parle pas de la violence, parce que l'homme est le seul animal qui a inventé des formes de violence, façon de détruire ses semblables. L'animal a inventé un tas de choses, comme le détecteur de présence électrique, ou bien l'éco-sondeur, des tas de choses comme ça. Et
le foot de Bassan,
lui, eh ben, il a inventé le club de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une zone de leur... Si vous avez l'occasion d'aller, par exemple, aux îles, en France, il y a les îles, les sept îles, l'archipel des sept îles au large de la Bretagne Nord, ou bien en Nouvelle-Zélande, ou bien au Canada, dans l'île de Bonaventure, il y a des milliers, des centaines de milliers de fous de bassin qui sont là. Et il y a une zone qui est réservée... Ils ont leur nid, et une zone qui est réservée à des rencontres. Ils y vont quand ils veulent, quand un mâle a perdu sa femelle, ou il veut changer, etc.
C'est un animal mythique.
C'est leur club MED à eux.
Ils ont leur club de rencontre qui est là. Ils ne vont pas sur Mythique.
Une sorte de Sofitel.
Ils n'ont pas besoin d'aller sur Internet.
Un point pour Antoine qui vient de nous faire une belle chandelle.
C'est sur ton carton, ça?
On m'a donné un carton avec des mots. Alors.
Confirmez-vous que la girafe donne du lait et qu'elle est souvent homosexuelle?
La girafe est souvent homosexuelle. Des gens se sont... Vous vous demandez pourquoi être voyeur, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais
pourtant, c'est un bon coup.
Des gens se sont...
Il y a plein de mammifères.
Le coup est très long. Et lorsqu'ils ont compté que chaque fois que... Ils ont compté combien de fois une girafe monte sur une autre, 90 fois sur 100, ce sont deux mâles.
Ah, voilà. Non.
Ah oui. Dites donc, quand une, surtout, non,
quand une girafe monte sur une autre, ça doit être haut, hein.
Vous vous rendez compte? Mais peut-être qu'il voit une girafe comme c'est féminin, la girafe, contrairement à l'ours ou le poisson, machin. La girafe, ah, c'est.
Et c'est vrai qu'elle est en voie de disparition parce que les, comme elle est très grande, les œufs tombent de trop haut.
C'est pas les œufs, mais c'est les petits. C'est les petits. Ils tombent. Et il y en a qui se cassent. Il y en a qui se cassent une patte en tombant. C'est vrai.
Ils tombent de 2 mètres.
Et voilà. Et on propose de faire de l'élevage de girafes pour la viande, mais aussi pour leur lait. Et ça serait très chic dans les bars à la mode. Ah, ouais. Garçon, un lait de girafe, s'il vous plaît.
C'est pas mon genre, alors ça...
Un lait de girafe.
Ben, ça fait grandir.
Il y a bien du lait de poule, pourquoi il n'y aurait pas de girafe?
Je vous mets un point, Philippe, pour ce magnifique tir croisé. 1, 3.
Alors, pour la question... Ah, il va l'user, son carton, là.
Comment le calao enferme-t-il sa femelle?
Ben, le calao, lui, c'est autre chose. Il construit un mur lorsque... La femelle est fécondée lorsqu'il va, elle pond, il fait un nid, ils font un nid tous les deux, et après il enferme la femelle. Il fait un mur, c'est dans un trou d'un arbre en général, il fait un trou en terre et en paille, quoi. Et lorsque les petits sont nés, eh bien, la femelle, elle sort, et elle referme le mur, et elle laisse juste un trou pour nourrir les petits, quoi. C'est certaines espèces de calao, c'est pas toutes.
Un point pour Antoine.
C'était quoi comme coup, ça?
Non, c'est Philippe qui a fait un bois, donc il a raté le...
Qu'est-ce que c'est qu'un bois?
J'en sais rien, mais c'est marqué sur le carton.
Tu tapes sur le bois de la raquette.
C'est touché avec la raquette.
Alors, est-ce qu'il y a des accouplements interespèces? Ça, c'est la question du racisme. Non. Est-ce que la girafe peut sauter...
Avec une araignée, par exemple.
Non, mais... C'est vrai, parce qu'on parle du racisme.
C'est une très bonne question.
Mais absolument. Enfin,
c'est une très bonne question, parce que c'est vraiment un racisme, pas entre deux ethnies, c'est racisme, ça serait un racisme. Mais
y
effectivement,
le pinson baise avec la pinsonne.
J'ai déjà vu des chiens dans des îles lointaines, des chiens grimper sur le dos d'un cochon, et ça ne les gênait pas. Hein.
Ouais.
Mais enfin, le résultat final
ne donne pas grand-chose.
Oui. Non. Bah, je crois que le chien qui est un peu bizarre, il va
prendre leurs pieds.
Il y a bien des animaux qui copulent avec les plantes.
Ah oui.
À ma connaissance, ça doit exister.
Georges Tron, je crois.
Oh là là.
Moi, j'ai vu un serpent se taper un hérisson, ça fait du fil de fer barbelé. Hein,
Où en est-on?
Je vais mettre 5 points pour Antoine et 2 pour vous, Philippe.
Comment se passe la parade amoureuse chez les émeus?
Qui ça? Ils sont émus.
Eh bien, chez l'émeu, c'est une des races où c'est la femelle qui est le chef.
Ah oui.
C'est la femelle, c'est un matriarcat en quelque sorte. C'est la femelle qui est le chef et même elle part une fois que le mâle s'occupe des petits, etc. Ensuite, et la femelle repart chercher d'autres mâles après pendant que le père
s'occupe. Et le type il court derrière.
Pendant que le type s'occupe des œufs, elle part chercher d'autres mâles pour faire d'autres nids.
C'est un peu un couple moderne, quoi.
Voilà, en quelque sorte.
Le père emmène les gosses à l'école pendant que maman se fait sauter par le voisin, quoi.
Si elle en a envie, pourquoi pas, hein.
C'est un raccourci.
6-2.
Combien de temps le panda géant consacre-t-il à l'amour?
Ben, le panda, c'est un gros problème, le panda, parce que
il n'y a pas de panda femelle.
Il n'est pas très intéressant. Ça n'intéresse pas beaucoup dans la vie en général, quoi. Et c'est déjà dur de rencontrer une femelle. Encore faut-il qu'elle lui plaise. Ça dure, c'est très bref. Et souvent inexistant. D'ailleurs, c'est un très gros problème pour faire se reproduire les pandas. On a dans les zoos. Où les pandas qui appartiennent tous à la Chine, il n'y a pas de contrepétrie. Il n'y a pas de contrepétrie. Et les pandas, on a beaucoup de mal pour les faire se reproduire. On a même essayé, paraît-il, j'ai pas vu le film.
L'insémination in vitro.
De leur montrer films, des films porno.
Des films
porno avec deux pandas en train de faire l'amour.
Non.
C'est quand même pas mal.
Si.
Et ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant, apparemment. Le panda est un sujet délicat.
Jeu blanc, personne ne marque de point.
Le bison est-il futé?
J'étais, une petite anecdote personnelle, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais en train de réaliser un nouveau film pour l'année prochaine sur les parcs américains. Et j'étais avec, donc, Francette, ma compagne, dans un troupeau de bisons. C'est-à-dire qu'on est, pas au milieu du troupeau, mais on était en train de les filmer à quelques dizaines de mètres du bison le plus proche, quoi. Et tout d'un coup, on avait garé la voiture à quelques centaines de mètres. Et tout d'un coup, Francette me dit, j'ai perdu la clé de la voiture. Et la voiture était fermée et clé était tombée quelque part au milieu des bisons.
Oh là là.
Et nous voilà à la recherche. On disait, qu'est-ce qu'on va faire? C'était dans le parc de Yellowstone. Quoi faire, etc. J'ai demandé à tous les gens, tous les visiteurs qui arrivaient, de chercher avec moi. Alors tout le monde, il y avait des bisons qui regardaient. Et tous les touristes qui étaient là, qui cherchaient les clés qui étaient par terre. Et je les ai retrouvés dans un buisson, finalement. Oh bah.
Vous avez de la chance.
Il faut pas. Il y a une chanson célèbre américaine qui dit qu'on ne doit pas faire de patins à roulettes dans un troupeau de bisons. You can't roller skate in a buffalo herd, de Roger Miller. Et on ne peut, il ne faut pas non plus perdre ses clés dans un troupeau de bisons.
1 point, 7-2, magnifique tir croisé.
Ah, pourquoi le poisson clown porte-t-il ce nom?
Oh, bah, je
il
pense
a le
que
nez rouge.
C'est essentiellement parce qu'il est coloré, quoi. Il est, ouais, il est coloré, je crois pas.
Mais il est pas drôle, hein, finalement.
Non, non, bah, il a, non, pas spécialement. Ce qui est drôle, c'est, ce qui est amusant, c'est ça. La symbiose qu'il a avec l'accord, le contrat qu'il a avec son habitat, avec l'anémone de mer, qui est un animal très toxique.
L'anémone
est très toxique. Oui.
Est-ce un végétal ou un animal, l'anémone de mer?
L'anémone, c'est un animal. C'est un animal qui lui a inventé quelque chose, qui elle plutôt a inventé quelque chose. L'anémone, dans les. Je donne quelques conseils pour ceux qui vont participer au concours, parce que lorsque très prochainement on va organiser un petit concours, il faut retrouver quels sont les 10 animaux et qu'est-ce qu'ils ont inventé, quoi. Et l'anémone, elle a inventé l'autostop. Elle a inventé l'autostop, car l'anémone, elle vit sur un grand pied. Elle vit sur un grand pied dans une. Elle est posée sur un pédoncule accroché à un rocher, mais de temps en temps, elle veut se déplacer. Alors, quand elle veut se déplacer, elle avise un Bernard l'ermite qui passe, c'est-à-dire une espèce de crabe bizarre qui a volé la coquille d'un coquillage mort, qui vit dedans. Et le Bernard l'ermite, lui, se déplace. Et l'anémone, elle se colle au Bernard l'ermite.
Ah là là.
Dont vous parliez de sexualité entre deux animaux. Je ne sais pas si c'est sexuel, mais
elle se fait emporter
comme ça. Et lorsqu'elle voit l'endroit qui lui plaît, hop, elle descend en marche.
Elle n'est pas conne.
C'est bien. C'est l'autostop.
La nature est bien faite.
Et oui. Parfois, l'anémone se colle à un Giscard. Hein,
oui.
C'est arrivé.
Ah oui, ça, oui.
C'est le Giscard l'ermite. Oui,
belle glissade de Philippe. 3-7.
Est-ce qu'on peut vraiment confondre un lamantin et une femme?
Non, mais les marins devaient être un peu myopes.
Mais oui, les fameuses sirènes, c'était
ils devaient pas avoir de bonnes lunettes, parce que c'est l'existence du lamantin qui est un espèce d'animal un peu. Vous avez vu en photo des lamantins ou des dugongs, sont des gros animaux, presque un hippopotame sans pattes.
Qui pleurent avec une voix de femme.
Et c'est eux qui auraient fait naître la légende des Absolument. Sirènes, paraît-il.
Oui, oui,
oui. Ouais, c'est possible.
La sirène, c'est mi-femme, mi-morue.
Oui, oui.
C'est ça.
Bon, ça n'engage que vous, cher ami.
Ah, oui, oui, oui.
3-8.
Avez-vous rencontré des chauves-souris vampires?
J'en ai pas rencontré personnellement. Mais
ça existe, hein.
J'en ai une dans ma. J'ai une chauve-souris dans ma ferme en Auvergne, qui est toujours là. Mais des chauves-souris, j'ai des copains qui étaient sur un bateau au large du Venezuela et qui se sont réveillés un matin. Ils dormaient sur le bateau, ils se sont réveillés un matin avec des taches de sang sur leurs draps, autour de leurs pieds. Ils avaient été mordus par des chauves-souris qui mettaient une espèce un antidouleur, quoi, un antalgique, qui fait qu'ils n'avaient rien senti, et ils avaient un anticoagulant, ce qui fait que le sang coulait, etc. Et ça existe effectivement au Venezuela. On nous a dit après qu'il fallait bien fermer les fenêtres quand on dormait la nuit, ou laisser une lumière allumée.
Vous savez que les chauves-souris redoutent énormément la vieillesse.
Oui.
Parce qu'en étant la tête en bas toujours, elles ont peur de l'incontinence.
Oui.
Vous imaginez le tableau?
Ah ben, de toute façon,
tu peux sortir du cours, toi, parce que vraiment.
C'est une des remarques importantes que je dis dans le livre. De par sa position, la chauve-souris se fait pipi dessus toute la journée. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça.
9-3.
Alors, pour pas fatiguer l'arbitre, je vais poser une dernière question avant les autres.
La dernière avant les autres, c'est bien.
Quels sont les animaux qui ne figurent pas et pourquoi dans votre arche de Noé personnelle?
Ben, je n'ai pas envie de parler d'animaux cruels, j'ai pas envie d'animaux malheureux, d'animaux trop en voie de disparition.
Les fourmis, les moustiques.
Vous voyez, les insectes, pas vraiment. Les insectes, ça m'intéresse pas beaucoup. Et puis, surtout, non, j'ai pas du tout voulu réellement exclure ceci ou cela. Ce que j'ai choisi, c'est les 100 animaux que j'aime beaucoup et que j'ai eu le plaisir d'aller photographier au fil de ces années, et de filmer au fil de ces années. Quoi.
Et quelques humains qui sont des sales bêtes?
Ben, l'humain est le plus méchant, quoi.
Ah, oui.
Et toutes ces images, je les ai ramenées. J'ai en parallèle un film qui était paru l'an dernier, un film sur les animaux, qui s'appelle Naturellement Animaux, et où il n'y a que des images de ces animaux, sans commentaires, avec des musiques planantes. Et ça, il y a de quoi, pendant une heure et demie, découvrir beaucoup de choses sur les animaux et les aimer plus, je crois.
Jeu décisif pour Antoine. 10-3.
Merci, monsieur l'arbitre. Merci beaucoup. C'est très bien, l'arbitre, parce que bon, il connaît tous les termes techniques. On sent qu'il a étudié ça. D'ailleurs, c'est un ancien joueur, hein. Une citation de M. Fournier de Rouen qui a dit « Les lions ont une grosse tête afin qu'ils ne puissent pas passer entre les barreaux. »
Pierre Dac?
Non, c'est un pierre.
Pierre Doris.
Pierre Doris. Oh, bonne réponse de Perrault. Pierre Doris. Monsieur Scram demande qui a le scrotum pourpre et les testicules bleus.
Ah, une bonne copine. Mais...
Oh, une bonne copine enfin, avec des testicules.
C'est le babouin.
Le babouin. Bonne réponse de, bah, de ma bille. Le babouin.
Il y a un animal que j'ai pas eu l'occasion de photographier au Japon, qui n'est connu qu'au Japon, qui s'appelle le tanuki. Si vous avez l'occasion de voir ça, le tanuki, c'est un petit animal mythique qui a été utilisé dans un manga. Vous parliez des mangas tout à l'heure. Et il est célèbre au Japon et il est connu pour son énorme scrotum en particulier.
Est-ce que c'est vrai que les babouins peuvent désirer les humaines? Est-ce qu'ils ont des érections?
Elle est excitée aujourd'hui.
Mais non, mais c'est vrai.
Uniquement le dimanche. Hein. On va vous donner l'adresse du zoo.
Non, ça, ce sont les cougars, ça. Ça, ce sont les cougars, ça.
Non.
Il y a des babouins dans le Gers.
Question de Madame Cassagne. Pourquoi les chimpanzés ne se battent-ils jamais pour leurs femelles comme le font tous les autres
animaux? Parce qu'ils sont infidèles.
Non, parce que la femelle est toujours prête.
Ah. Bonne réponse de Péroni. Voilà. Ah, ça, c'est un exemple. Hein.
C'est comme ça chez les Péroni.
Je connais bien les chimpanzettes.
Ah oui.
Strauss-Kahn, dans un zoo, il n'aurait pas de problème.
Pas de problème, rien du tout.
Ah, c'est la petite Banon qui l'appelle babouin.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Elles se font sauter du matin au soir, alors?
Oui, ma chérie. Tu vois, ça fait rêver. Hein.
Ah oui.
Ah ouais. Je vous dis qu'elle est excitée aujourd'hui.
Non, mais la question est intéressante.
Je sais pas ce qu'elle a mangé.
Alors, nous avons, depuis que 35 ans que les grosses têtes existent, accumulé avec Éric Laverdin des morceaux de bravoure sonore dans notre sonothèque. Et je vais vous faire entendre alors une histoire... très, très curieuse, racontée par Brigitte Fosset. Il s'agit d'un animal de théâtre, en quelque sorte.
J'ai été en tournée avec la mouette de Tchekhov. Ah, oui. Et à la dernière scène, elle revient donc 10 ans après, dans la maison de Treplev. Et tout à coup, il y a une grande émotion et Treplev se met à pleurer sur le temps passé, sur son orgueil, lui dit qu'il n'a pas réussi, etc. Puis un soir, j'étais avec François Nocher. Il avait toujours son chien dans la coulisse. Son chien avait 12 ans et s'appelait Mistral. Et puis un soir, il se met à jouer la scène d'une façon bouleversante. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Son Mistral. Son chien qui se précipite dans ses jambes. Et là, François a eu un coup de génie. Il a pris le chien par les oreilles, qui avaient des longs poils, comme ça. Et il a terminé la scène en pleurant à chaudes larmes avec son chien. Et moi, j'ai mis la main et j'ai caressé le chien. Et ça a été un triomphe. Et après, tous les gens sont venus nous voir en nous disant « Quelle mise en scène formidable !» Le chien qui vient au moment où Treplev pleure sur son passé, c'est du génie.
Ce Mistral, c'était un Mistral gagnant, alors.
Oh là là, bravo.
Voilà.
Quel poète.
Bravo. Voilà.
Qu'est-ce que le corail mou?
C'est ce qu'on trouve dans les crabes quand on les fait cuire.
Non, corail en formation?
C'est dans l'oursin.
Non, c'est une autre race de corail. Il y a les coraux durs qui constituent, quand ils meurent, leur squelette constitue les récifs de corail. Et les coraux mous qui sont des créatures vivantes qui sont même formation que le corail, mais qui ne laisse pas de squelette. Et qui sont des... Il y en a beaucoup dans l'ouest du Pacifique en particulier, et je sais pourquoi vous me demandez de parler du corail mou, parce que le corail mou le plus célèbre, qu'on rencontre le plus facilement, le plus souvent, s'appelle le sarcophyton.
Ah,
voilà.
Ah,
alors, en ce moment, on se demande s'il sera réélu, mais en tout cas, voilà.
Ça, c'est pas un corail mou.
Il y a des barrières de corail mou aussi.
Il n'y a pas des barrières de corail mou, mais par exemple, en Australie, vous avez la grande barrière de corail. Ouais. Et dans là, vous pouvez nager auprès des récifs, tout ça. Là, vous voyez les coraux durs. Ouais. Et partout dessus poussent des coraux mous, quoi. Mais il y a une variété immense. Hein. Dans le livre, là, j'ai beaucoup de photos. On a plongé à Palau, par exemple. Palau, c'est dans le Pacifique Nord, ou bien sur la Grande Barrière. Et les coraux mous, moi j'ai une préférence, ils sont très colorés, ça ressemble à des branches, à des arbres de Noël, des choses comme ça. C'est vraiment une des créatures les moins connues de la planète, mais qui sont superbes. Ils sont un peu comme du caoutchouc, oui. Et ils ont deux états de repos, l'état de repos on dirait du cuir, les Anglais appellent leather coral, le corail de cuir. Et lorsqu'ils sont en train de se nourrir, en érection en quelque sorte.
Oui. Ça y est,
mais depuis qu'elle a tourné son truc sur les nudistes, on la tient plus. Hein.
Mais c'est pas un membre qui sort, c'est des millions.
Ah. Oh le rêve. Regardez ses yeux, il y a des étoiles dans ses petits yeux.
Elle a du
des millions de membres.
T'as tourné dans une.
Parlez-nous un peu de Banana Split, votre bateau. C'est confortable ?
Eh bien, mon bateau est confortable. Oui, c'est pas un bateau de luxe, hein. C'est un bateau de 12 mètres 50. Pour vous dire à peu près, c'est la taille d'un petit studio, quoi. J'ai petit appartement, Dijon. J'ai à peu près l'équivalent de 30 mètres carrés. Allez, 30 mètres carrés, mais c'est très agréable. Et puis le jardin est très, très grand.
Ah, et puis il n'y a pas de taxe d'habitation.
Il y a pas quand même des taxes portuaires. Il y a des taxes élevées sur la possession d'un bateau. Dans certains endroits, moi je vis dans des endroits où il n'y a pas de ponton. Il n'y a pas de ponton, il n'y a pas de marine. On ne paye pas des choses comme ça, mais on paye des taxes quand même. Mais moi j'ai choisi ça comme maison, quoi. J'ai choisi mon domicile les trois quarts de l'année, c'est le bateau. C'est pas grand, mais c'est un endroit merveilleux.
Puis vous avez quand même des pieds à terre, hein.
Oui, ben lorsque je reviens à Paris, j'ai un appartement en région parisienne pour
une ferme en Auvergne.
Et j'ai toujours gardé la ferme en Auvergne que.
Vous travaillez aux impôts, Philippe, là.
Vous connaissiez l'existence de cette ferme, Philippe, parce qu'il y a très longtemps, vous avez fait un article disant que j'avais inventé le garage salon. Le garage salon, parce que j'avais dit que je rêvais d'une grande ferme, d'une espèce de grange, un grand truc, où il y a le salon et on rentre la voiture en même temps. J'avais une très jolie voiture à l'époque, qui était une reproduction, c'était une vraie œuvre d'art, une reproduction d'une voiture de 1929. Alors j'imaginais de la rentrer dans la partie où on vit pour pouvoir la regarder comme ça. Donc vous aviez titré « Antoine invente le garage salon
». Question de Madame Moreau. Sur quelle île française trouve-t-on le port aux Français ?
L'île de Ré.
Port aux Français, ça serait pas au Kerguelen, non ?
C'est au Kerguelen. Voilà. Bonne réponse d'Antoine. De Monsieur Félix de Poitiers, pour quelle raison les tigres s'accouplent-ils souvent dans l'eau ?
Parce qu'ils ne peuvent pas se retirer l'un de l'autre, sinon.
Oui. Non.
Pour lubrifier.
Dans l'eau ?
Non.
Parce que ça chauffe énormément.
Oui.
Madame a le feu au cul, donc.
C'est plus confortable, mais. Pourquoi ? Mais
c'est pour la sécurité, pour être tranquille, pour ne pas risquer d'être ennuyé.
C'est pour qu'on les regarde pas.
Pour ne pas risquer d'être ennuyé par qui ?
Mais par des prédateurs.
Par les crocodiles.
Les mouches.
Les mouches.
Ah oui.
Bonne réponse de Maillot pour éviter les mouches.
C'est pour ça que Strauss-Kahn fait ça dans sa baignoire.
Par les mouches.
Question de Madame Laurette. Pourquoi les femelles alligators se déchaînent-elles lorsqu'elles entendent le bang d'un avion à réaction ?
C'est le bruit du crocodile ou de l'alligator en rut.
C'est exactement.
Quoi ?
C'est l'appel amoureux du mâle. C'est alors le même son. Bonne réponse de Mabille.
Ça vaut la bouche.
Ah oui, c'est pour ça que j'ai vu un con dans le bord. Il y avait un con dans le bord en chemise Lacoste qui se tapait une hôtesse l'autre jour.
Ah, Bernard, t'es formidable.
Très costaud. Hein.
Question de Monsieur Lopez. Comment la femelle éléphant parvient-elle à prévenir les mâles éloignés qu'elle est fécondable ?
Elle pète.
Non, elle
émet un bruit.
Par des cris.
Non, elle tape sur le sol.
Alors attendez, qu'est-ce qu'elle émet ?
Des ultrasons.
Des ultrasons.
Voilà.
Bonne réponse de Jacques Maillot. Dites donc, vous êtes un zoologue averti.
Il
a étudié les éléphants du PS.
Une bonne nouvelle pour les balletomanes, c'est la rentrée sur scène de Patrick Dupont. Et je vais lui demander d'éclairer notre lanterne. Bonjour Patrick Dupont.
Bonjour Philippe, comment allez-vous ?
Bah écoutez, bien quand je pense qu'après une longue absence, près de 10 ans, vous retrouvez la scène.
Oui, tout à fait, c'est un grand bonheur en fait. Hein.
Pourquoi l'aviez-vous quitté ?
Bah écoutez, d'abord j'ai eu mon accident de voiture et puis une reprise avec l'Air de Paris pendant un an et demi.
Et puis au fait, les gens de l'opéra n'avaient pas été très gentils avec vous. Hein.
Pas trop, non, pas trop sympa et... Le téléphone s'est arrêté de sonner, ça a été un peu une mise au placard, et puis moi je me suis tourné vers l'enseignement en fait, et puis je me suis reconstruit doucement, j'ai fait une rencontre magnifique qui est celle de Leïla Darrocha, danseuse orientale et contemporaine, chorégraphe, tous les deux, on a monté un spectacle petit à petit, au fil du temps. Et aujourd'hui, on est venu le présenter à l'Institut du Monde Arabe et ça a été un triomphe, je suis super content.
On va le voir en tournée, hein?
Oui, absolument. Maintenant, on va le tourner en France. On cherche actuellement un théâtre parisien pour réitérer ce qu'on a fait à Lima, à l'Institut du Monde Arabe. On voudrait refaire 5-6 jours parce que ça a tellement bien marché qu'on a refusé du monde.
Est-ce que c'est rare qu'on puisse danser à 52 ans ?
Bah écoutez, c'est déjà arrivé. Mais
Serge Liffard a dansé jusqu'à quel âge ?
Comment ? Serge Liffard jusqu'à 50 ans, je crois.
Jusqu'au bout, hein.
Bernadette Chirac jusqu'à 72, hein.
Avec un chinois.
Avec un chinois. Oui, donc.
Non, non, il y a des exemples. Maya Plissetskaya jusqu'à 80 ans, vous imaginez. Je pense qu'il faut bien choisir son répertoire, faut bien choisir ses pas, faut bien choisir, bien s'échauffer. Vous savez, avec l'âge, aujourd'hui, je m'échauffe beaucoup plus longtemps qu'avant, mais néanmoins, la pêche est toujours là, la gambette se lève.
C'est un boulot monstre, hein.
Ah oui, ouais,
c'est du boulot.
Un travail, on passe parfois 8 heures en studio avec Leïla et c'est super. C'est fatigant, mais c'est super.
D'autant que vous aviez pris la succession de Nureyev à l'opéra. Hein.
Tout à fait, tout à fait. J'avais succédé à Rudolf Nureyev au poste de directeur de la danse. Et c'était 14 heures de travail par jour. Je dansais en même temps. C'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, je suis habitué à ces horaires difficiles. Mais aujourd'hui, j'enseigne avec Leïla à Soissons. On a une école tous les deux et on enseigne là. Et ça, on en profite pour répéter, pour mettre au point notre ballet et pour l'élaborer et puis pour le peaufiner.
C'est-à-dire, vous faites un pas de deux depuis quelques années, quoi.
Exactement. On fait un pas de deux depuis 6 ans maintenant. Tous les deux, main dans la main, on se dirige... vers le message qu'on veut transmettre, qui est un message d'amour et de tolérance entre les cultures différentes, entre les univers différents. Et c'est l'histoire de deux êtres qui se rencontrent, qui s'admirent mutuellement et qui élaborent un langage commun vers la lumière, vers la beauté, vers la paix.
Un langage commun et universel, hein ?
Et complètement universel, qui est compris par tout le monde. Nous avons sans doute dansé notre ballet au Japon et on est très, très, très heureux de ça.
Merci et bravo, Patrick Dupont. Merci pour ce joli retour.
De rien.
Bon, encore quelques histoires animales. D'abord, un témoignage de Sim sur l'intelligence des bébêtes.
Moi, j'ai connu un perroquet très, 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 très intelligent. Son maître l'avait abandonné un jour, enfin pas, il l'avait laissé dans son appartement. Et le perroquet était là sur son perchoir. Il était comme ça. Et tout d'un coup, il y a le feu qui prend dans la cuisine. Et comme le perroquet est très intelligent, il voit le feu, il voit les flammes qui sortent de la cuisine, il descend du perchoir. Et alors, avec sa petite patte de droite, il défait sa petite chaîne qui en serre la petite patte de gauche. Et il s'avance, les flammes gagnent, et il revise le téléphone. Il se dit, je vais téléphoner. Il rampe sur la moquette qui commence à prendre feu. Il arrive, il grimpe sur la commode, il s'approche du téléphone. Et avec sa petite patte de droite, il fait le numéro des pompiers. Avec sa petite patte de gauche, il prend le récepteur du téléphone. Et il a les pompiers au bout du fil. Et la maison prend feu et le perroquet fait « Bonjour, Coco !»
C'est terrible, cette histoire. C'est
il faisait bien le perroquet. Hein. Il faisait bien le bébé. Il savait tout faire.
Où est-ce qu'on trouve les plus beaux perroquets, Antoine ?
Je ne suis pas trop fan du perroquet. Hein. Les plus beaux sont les aras, en particulier.
Ouais. Dans les vieux bistrots, il y a des beaux perroquets.
Souvent, ils sont magnifiques, mais très bruyants. Ce n'est pas l'animal dont je rêve, non, le perroquet. C'est pas... J'aime plus les oiseaux... les oiseaux libres, les oiseaux en beauté. La couverture du livre, ça c'est l'un des plus beaux oiseaux du monde à mon avis. C'est la goélette blanche, un oiseau mythique qu'on appelle aussi la sterne paradis. Son vrai nom c'est la sterne paradis, ça veut tout dire. Un oiseau qui est très particulier parce qu'il pond ses œufs sans faire de nid. La femelle pose son œuf sur une branche simplement. Sur une branche, et lorsque elle le couvre là, même la branche, une petite branche, hein, l'œuf est là dans le vent et tout. Et lorsque le petit naît, eh ben, il s'accroche aussitôt avec ses griffes, ses serres, il s'accroche à la branche immédiatement et il ne lâche pas la branche pendant 3 ou 4 mois.
Ah, dis donc.
Oh là là. Chinoui, hein.
En 3 ou 4 mois.
Il tu vois, Macha, 3 ou 4 mois, tu ne lâches pas la branche.
Oui. Non,
pour moi, ça va plus vite que ça.
Ça ouvre des perspectives, quand même.
Question de M. Scran. Qui était Adélie qui a donné son nom à la Terre en Antarctique.
Un voyageur,
non, c'est la femme,
un explorateur.
C'est la femme du.
De qui alors?
Ben du comment il s'appelle?
Cook.
Non.
Non, 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 non.
Charcot.
Non.
Non.
Cousteau.
Mais non.
Pauline Victor.
En deux mots.
Vasco de Gama.
Non.
MacMahon.
D'un roi, non, pas
que. Non, d'un explorateur.
D'un explorateur.
L'explorateur.
Un américain.
Celui qui avait remonté la Vénus de Milo, en plus, hein, c'est pas rien.
Attendez,
la Vénus. Ah bah non.
Il a remonté la Vénus de Milo.
Non, c'était un Français. Bah, c'était
un Français, bien sûr.
Qui on a comme grand.
Il avait remonté entièrement.
Qui on a comme grand explorateur.
En deux mots.
Oui.
Oui, oui.
Et il n'y a pas de prénom.
Ben non, il n'y a pas de prénom.
Ah, parce que dans les grands explorateurs, il y a eu qui
Dumont-d'Urville.
Dumont-d'Urville. Il a fait semblant de chercher pour valoriser un peu la réponse.
Ouais, Dumont-d'Urville.
Quels sont les animaux les plus travailleurs? Enfin, ceux qu'on fait, que l'homme fait les plus travailler.
Il y a quelques animaux dont on sait que l'homme, là, on dit que le cheval est la plus noble conquête de l'homme, mais enfin, il a été quand même mis au boulot. Il n'y a pas beaucoup les chiens, certains chiens qui tirent des traîneaux, des choses comme ça et tout.
Les abeilles.
Mais les abeilles, elles ne sont pas mises au travail, elles sont travailleuses, mais c'est un.
Des castors.
Pour se nourrir, les animaux, pour manger, pour se nourrir et pour se reproduire, travaillent beaucoup, mais travailler pour un travail donné, c'est.
Mais les ânes.
L'homme a mis au travail le koala en particulier. Le koala, mais alors, en Australie, dans les parcs, les gens adorent prendre dans leurs bras les koalas, quoi. Alors, il y a des règles syndicales très très précises. Un koala, vous allez rêver. Un koala, on a le droit de faire travailler un koala qu'une demi-heure par jour et 3 jours par semaine seulement. Voilà. Alors, que font les syndicats
sinon
en France?
Sinon, ils se mettent en grève, oui.
Sinon, voilà. Donc, le koala, on n'a pas le droit de faire travailler plus que ça. Et son travail, vous l'avez deviné, c'est simplement d'être pris dans les bras. Et ça tombe bien.
Il a une grande queue, non?
Ça tombe bien. Non, le koala.
Est-ce que vous avez des glaçons et un seau d'eau, là?
Incroyable.
Possible.
Qu'est-ce que vous faites après l'émission, ma chère?
Je sais pas, pour la calmer un peu, parce que.
Préparant notre rencontre, cher Antoine, je me suis rendu compte qu'on vous connaissait depuis longtemps. Et qu'il y avait plein de points obscurs, plein de choses qu'on ne connaissait pas sur vous, par exemple, s'agissant du premier baiser.
Alors, vous voulez que je raconte mon premier baiser?
Oui, bah, pas ou alors vous le mimez avec Macha.
Ouais, c'était... Oui, mais il faut des accessoires, alors. Non, c'était... J'étais tout jeune, je devais avoir 16 ou 18. À l'époque, on était un peu tardif. Hein. Et je me rappelle que elle s'appelait Claude. C'était dans une surprise partie, quelque part dans les montagnes, du côté dans le Dauphiné, au-dessus de Grenoble et tout. Et je me rappelle avec émotion qu'il y avait sur le buffet de cette surprise partie, il y avait des petits gâteaux, des choux, des religieuses et tout. Il y avait des éclairs, des petits éclairs, portions au chocolat et au café. Voilà. Et je me rappelle qu'elle avait pris dans sa bouche un éclair au chocolat, et moi dans la mienne un éclair au café, et qu'on avait échangé. C'est pas mignon, non?
Quoi? Et moi, mon premier baiser, c'était qu'une religieuse. Ah, c'est un joli souvenir, mais gastronomique en même
gastronomique
temps qu'amoureux.
Aussi,
hein.
Ça a été,
ah, oui.
Ça a été mes débuts dans la vie sensuelle et dans la vie gastronomique à la fois.
Un peu
les petits boulots.
Je fais des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous.
Ah là, il y en a eu, hein.
Ben moi, j'ai fait un compte, j'ai dû exercer, je veux dire, à titre professionnel et étant payé, même de neuf, hein, même 3 sous, j'ai dû faire au moins 27 métiers. Depuis au moins 27 métiers, en comptant chanteur, auteur, compositeur, cinéaste, monteur, etc., quoi, éditeur, présentateur et tout. Au moins 27 métiers, quoi. Mais comme petit métier de ma jeunesse, j'en ai vraiment fait qu'un seul, c'était de gratter la guitare, quoi. Faire la manche. Bien avant de devenir chanteur, je faisais la manche dans les rues, en particulier à Marseille. Et j'ai un petit souvenir, donc, une des rues où on avait le plus de succès à Marseille, c'était mes tout débuts. Hein. On chantait « On est les rois », une chanson de Hugo Frey ou bien des classiques du folk américain. Et il y avait une rue qui s'appelait la rue Tubano. Ceux qui ont une bonne mémoire de Marseille savent que la rue Tubano, ben, c'était la rue des putes. C'était la rue, c'était la rue des bars, la rue des bars à putes. Je ne sais pas si elle existe encore parce que c'était le vieux bar.
Et alors, elle vous donnait quelques subsides?
On ne pouvait pas y rentrer, bien sûr, dans les bars. Mais nous, très couramment, on jouait dans la rue. Elle était sur le pas de la porte pour nous écouter. Oui. Elle rentrait dans le bar, faire la manche. Elle nous rapportait le produit de la manche, comme ça. Je suis arrivé à Marseille, j'avais pas un sou en poche. Je suis reparti, j'avais une garde-robe neuve et j'étais totalement habillé avec la bonne volonté du public en général, mais entre autres de ces demoiselles.
Ah bah, là, elle faisait la manche. D'habitude, c'était le manche qu'elle faisait plutôt.
Hein. C'est très joli aussi, ça. C'est très
mais
joli.
Donc, vous avez mangé un peu de pain de fesse, hein, finalement.
Mais non, moi, j'ai toujours gardé une grande sympathie, une grande admiration pour les personnes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, les personnes, femmes et hommes, qui ont choisi de faire ce métier volontairement, qui l'exercent bien. Je sais qu'il y a effectivement des excès infernaux, etc., des gens qui sont très maltraités, mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi ces métiers-là très volontairement et je trouve que ça serait dommage qu'on les ennuie. Je pense que c'est un métier qui rend service à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes.
Ça soulage.
Et que toute femme ou homme de nos jours, puisque Macha, vous savez que vous parliez de la fidélité, de l'adultère qui n'est plus un péché, etc. Je pense que toute femme ou homme qui n'a pas les moyens parce qu'il n'a pas le charme, elle n'a pas le charme de séduire quelqu'un à vie et tout, devrait trouver un moyen de satisfaire cette aussi bien les femmes que les hommes, ces choses qui sont tout à fait naturelles et qui sont, on l'a vu récemment dans la presse, qui est une chose extrêmement bonne pour la santé. Quelqu'un qui fait l'amour deux fois par semaine vivra dix ans de plus et voilà. Plus heureux et en meilleure forme. Alors je pense que pour beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de séduire quelqu'un ou qui ne souhaitent pas vivre avec quelqu'un en permanence, je pense que c'est un métier qui existe depuis longtemps et qui peut être fait de façon respectable et qui devrait être respecté. Je le respecte.
Ah ben c'est bien, mais vous pensez que le centenaire, à partir de 90 ans, il continuait à faire l'amour deux fois par semaine, c'est pour ça qu'il a atteint ce grand âge?
Bon, c'est pas systématique, mais c'est prouvé que c'est une activité tout à fait normale de l'être humain et qui doit être respectée.
Mais il devrait y avoir une assistance sexuelle.
Ben, vous parliez
tout
à l'heure.
Un numéro sur sur son téléphone et on vous aiderait.
Ben, des tas de choses sont possibles. Vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui fait à prix d'or des consultations sexologie et tout. Oui. Mais il y a des tas de choses à inventer et c'est certainement pas l'abolition, la tentative d'abolition qui donnera la solution, qui ne ferait que mettre les gens, hommes et femmes, dans plus de malheur, c'est tout, quoi.
Alors, deux trésors de notre sonothèque et je vais vous faire entendre. D'abord, c'est Michel Drucker qui, ici, était allé et avec une audace qui nous avait un peu surpris écoutez, vous allez entendre, c'est pas croyable dans la bouche de Michel.
Je devais présenter, c'est une séquence hebdomadaire. J'avais 5 minutes pour présenter une séquence et je présentais un animal un peu original. Et on m'a fait présenter ce soir-là la plus vieille chatte de France. Et ça a donné ceci. Madame, venez me montrer votre chatte. Et tout ceci est authentique. Et alors, j'ai commencé à accumuler tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai dit, puisse caresser votre chatte. Et alors, on dit, coupez. Et on recommence. Et là, j'entends, vieille chatte de France, deuxième. Et on recommence. Et je veux changer l'attaque. Et je dis, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Vous avez peut-être vu des vieilles chattes, mais comme celle-là, jamais. Non, tu peux pas savoir. Ça a été l'horreur. Alors, on a coupé pour la troisième fois. Et la dame me disait, vous savez, il faut la peigner soigneusement. Matin, midi et soir. Il faut faire très très attention afin qu'elle ne grossisse pas. C'est une chatte qui a 22 ans. Je m'en suis occupé toute ma vie, disait-elle. Je n'ai eu qu'une chatte, celle-là.
Ah, quand on est embraillé là-dedans, c'est fini. Il y avait eu un petit bouquin de Pierre Sabag qui était paru. C'était un grand de la télévision, très sympa. Ce bouquin s'appelait « Comment se faire une bonne pipe ». C'était un fumeur de bouffarde. Et alors, bon, ça avait commencé très bien, parce qu'il y avait des amateurs de tabac. Et puis, au bout d'un moment, ça a complètement dérivé. Et ils ne comprenaient pas. Ils nous regardaient. Naturellement, ce n'étaient pas les plaisanteries les plus convenables qui suivaient. Ah, écoutez, là, vous allez entendre, toujours à propos d'un animal de compagnie, un poème de très leste de François Morel.
Les jours de vague à l'âme et de mélancolie, que long paraît le temps, vaine semble la vie, quand sous la véranda je rêvasse les bras ballants sans volonté, là j'encule le chat. C'est ma façon à moi de tromper la langueur des journées sans soleil, des tables sans saveur. Mon remède assuré pour retrouver la joie, le bonheur qui s'enfuit loin. J'encule le chat. Je regarde là-haut le ciel et les nuages. Mon esprit vagabond dans de lointains voyages. Mon âme est tout en haut, mes chausses tout en bas. Je suis au nirvana quand j'encule le chat. Mon affaire accomplie, je reviens, l'air serein, retrouver ma maman qui tricote au jardin. Que faisais-tu, mon fils? Que faisais-tu? Dis-moi rien, maman. Je rêvais et j'enculais le chat.
Finalement, c'est plus du tout vulgaire.
Non,
hein.
Non.
Puis c'est sûrement vécu. Madame Desroches, selon que sa queue s'enroule ou se tend, cela indique la pluie ou le beau temps. De quel animal s'agit-il ?
Le marsupilami.
Le baromètre.
Le kangourou ?
Non.
C'est un animal marin ?
Oui, quand même.
Marin.
Oui. L'hippocampe ?
L'hippocampe.
Ah,
bonne réponse
bien.
De Machamérie.
Alors, en matière de queue, je connais très bien.
C'est une question pour elle.
Ah oui, oui. Dès que le truc se déroule, hop.
Elle le rappe.
Allô, machin.
Elle le rappe.
Bonjour, bonjour.
J'en ai jamais vu de vivant. J'en ai toujours vu.
J'en ai vu.
Question de Monsieur Lucas. Quel est le plus petit territoire français dans une enclave étrangère?
C'est en France métropolitaine.
Oh non, c'est loin. C'est loin.
C'est loin.
C'est sur le continent africain ?
Du côté de Sainte-Hélène ?
Saint-Pierre-et-Miquelon, non ?
Eh bien, c'est Sainte-Hélène.
C'est la maison de l'empereur
qui a été rachetée par la France.
Conservée par un consul qui s'appelle M. Martineau.
Oui, exactement.
J'ai eu la chance d'y aller deux fois. Et c'est extraordinaire. On peut y voir, entre autres, dans le pavillon de... Ça s'appelle Longwood. Et le pavillon où habitait l'empereur et le jardin. Le jardin qu'il avait créé. Car quand il a vu qu'il ne repartirait plus jamais... Tout d'un coup, il s'était résigné et il avait créé un jardin superbe. Et on peut encore voir le jardin de l'empereur, bien amoureusement entretenu par le consul, M. Martineau.
Alors, c'est un territoire d'un demi-hectare, ce qui n'est pas beaucoup.
Ah ben, c'est tout petit.
Puis, on n'y arrive pas facilement. Hein.
Non, ben, il n'y a pas d'avion. C'est une île où il n'y a pas d'aérodrome du tout. Il y a un bateau qui y va à peu près 3-4 fois par an.
Il n'y a pas de train.
C'est assez long. Hein.
3-4 fois par an.
C'est-à-dire que c'est le Royal Saint-Hélène, chose comme ça. Et il faut aller le prendre soit aux Canaries, à Tenerife, soit en Afrique du Sud. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est un endroit extraordinaire. Ceux qui ont un petit peu la nostalgie de l'empereur, ou même ceux qui aiment... Moi, j'adore cet endroit. C'est un des rares endroits où je suis passé deux fois à 22 ans d'intervalle, et où je me suis dit, mais je suis
bête d'en partir. Est-ce qu'il y a encore des régions du monde, après avoir bourlingué tellement, que vous ne connaissez pas ?
Il y en a plein. Je n'aime pas les régions trop peuplées, quoi. C'est-à-dire, vous ne me verrez pas à Bombay, ou en Inde, ou en Chine. Ce n'est pas les endroits que j'apprécie, quoi. Mais dans les îles tropicales, les îles les plus isolées, il y en a beaucoup, beaucoup que je connais. Quoi. Mais...
Et Aubusson, vous connaissez ?
Les tapisseries d'Aubusson, très jolies. Bah, j'habite pas très loin quand je suis en Auvergne. Bah, oui.
La dernière citation a été envoyée par Mme Léger de Reims, qui a dit « Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage ».
Super.
Alphonse Allais.
C'est un grand marin.
Non. Tristan Bernard.
Capitaine Iceberg.
Ça remonte loin et c'est pas de chez nous.
Lao Tseu.
Bonne réponse de Péroni. Alors là, les bras nous en tombent.
Lao Tseu.
Il connaît bien.
Oui, mais enfin, bien. Il devrait être là, il devrait être déjà de retour. Alors, raconte.
Oui, racontez, cher Macha, la belle histoire de Madame Lomeux de l'Homme qui va recevoir le 4e almanach des grosses têtes.
Dans la forêt vierge d'Afrique centrale, un explorateur arrive dans une vaste clairière au centre de laquelle se dresse une hutte en toit de chaume surmontée d'une enseigne « Restaurant cannibale ». Intrigué, il s'approche et détaille le menu affiché à l'entrée. Le hollandais, la portion 100 €. L'italien, la portion 100 €. L'allemand, la portion 100 €. Le belge, la portion 100 €. Et pour terminer, le français, la portion 500 €. À ce moment apparaît le chef en tablier blanc et toque de cuisinier. L'explorateur s'adresse à lui et lui demande « Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Vous avez de la chair humaine de toutes les nationalités au prix unique de 100 €. Et le français, vous le comptez 500 €. Pourquoi une telle différence ?» Le chef coq lève les yeux au ciel et dit « Ah, monsieur, si vous saviez le temps qu'on passe à le plumer !»
Voilà, permettez-moi, cher Antoine, de vous remettre votre CAP de la part des grosses têtes, votre certificat d'aptitude à la plaisanterie. C'est pas une découverte, c'est une confirmation, mais ça vous fera un petit souvenir pour le Banana Split.
Eh bien, merci beaucoup.
Et puis, merci pour cet album fabuleux dont la radio ne peut rendre compte qu'incomplètement, mais j'espère que on vous a donné envie de partager les émotions et les admirations d'Antoine. Merci, bravo, à demain.
Vous avez aimé cette émission ? Alors retrouvez tout l'humour de RTL dans nos différents podcasts sur rtl.fr. Laurent Gérard, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Régis Maillot et la nouvelle émission de Stéphane Bern avec Didier Porte.